dans Bon Point, portant une robe d'été en plein mois de décembre parce que je n'avais rien qui m'allait et j'avais donné rendez-vous aux gens en face du magasin de vin et spiritueux parce qu'autrement, ils n'auraient pas pu trouver où je vivais. Et maintenant, j'étais là, des bigoudis sur la tête en face du marchand de vin, à saluer tout le monde en disant « Bonjour, je vais vous aider à vous libérer de votre boulimie. » Et les gens qui ne se sont pas sauvés en hurlant du parking sont en fait restés avec moi plusieurs années. Mais cela s'est passé aussi naturellement, un peu moins naturellement que ce dont tu as parlé, mais néanmoins en ne sachant pas ce qui allait arriver. J'ai simplement fait ce que je savais faire et ce que j'aimais. Oui, oui. C'est un bon indicateur pour beaucoup de gens. Donc, l'addiction, comment tu dirais en quelques mots, comment pourrais-tu évoquer la cause de toute addiction? Il y a une cause commune, je pourrais dire avec mes propres mots comment je le vois, mais j'ai envie d'entendre ton point de vue. Quelle que soit l'addiction, un comportement de dépendance, un comportement compulsionnel, compulsif, quelle en est la cause principale et comment dépasses-tu cela? Oui, et ensuite j'aimerais entendre ce que tu en penses également. Ok. Bien, je pense que l'obsession et l'addiction, et habituellement je n'utilise pas de grands mots comme ça parce que je pense que les étiquettes effraient les gens. Ils s'étiquettent ensuite eux-mêmes et ils ont peur des étiquettes. Donc je n'utilise pas ces mots habituellement. Très bien. Mais j'utilise effectivement obsession pour plus facilement que je n'utilise addiction. Ce dont je fais directement l'expérience à ce sujet et que je vois également chez mes étudiants, c'est que c'est un moyen, comme je le formule, de changer la direction du mental quand vous n'aimez pas ce qui survient en face. Et cela résulte aussi de la conviction « je ne peux pas être avec ce qui est ici ». Juste maintenant. Il faut donc que je le change, que je le transforme, que je l'arrange. Si j'accepte de le ressentir, je vais... vous pouvez alors compléter la phrase. Je ne serais pas capable de supporter l'inconfort, je m'ennuierais terriblement. Au début, quand tu parlais d'être simplement tranquille, qu'est-ce que ça fait? Et à moins que la tranquillité vous soit un peu familière, vous vous ennuyez davantage ou vous êtes plus inquiet, plus agité ou même paniqué. Et vous ne savez pas que, ok, même à quoi cela ressemble. Je pense donc qu'il y a là comme une petite carence que beaucoup d'entre nous ressentent comme étant basée sur leur passé, et nous ne réalisons pas cela, que cela fait partie de nos comportements et croyances conditionnées issues de notre passé. Et nous ne réalisons pas que nous sommes scrupuleusement identifiés à cela, scrupuleusement. Ils nous sont insupportables. Et nous essayons donc de trouver quelque chose à l'extérieur de la nourriture pour le changer, ou pour ne pas le sentir, pour nous aider à nous sentir plus vivants. Parce que dès l'instant où vous mettez quelque chose dans votre bouche, simplement dans ce premier instant, il y a et votre attention quitte l'endroit où elle était fixée, quoi que ce soit, sortant du mental désirant pour en arriver à « Oh, c'est si bon ». Donc, momentanément, il y a un étouffement de ce qui vous cause tant d'inconfort, de ce que vous croyez qui vous cause tant d'inconfort. Je pense que c'est Fritz Perls qui a créé la Gestalt-thérapie qui disait « Vous ne pouvez pas vous en sortir avec juste un peu de souffrance ». parce que vous mentionnez dans votre livre, cela commence souvent quand vous êtes enfant et l'enfant a besoin de le faire. Il a besoin d'éliminer de sa conscience une certaine souffrance. Mais ce qui serait pour un enfant une souffrance énorme, c'est relativement peu de choses pour un adulte. Mais le schéma de ne pas vouloir ou de croire « je ne peux pas sentir ça, je ne peux pas me permettre de sentir ça, je ne dois pas considérer ça », c'est un schéma qui renvoie à l'enfance, qui ne s'applique plus à l'adulte. Pour un enfant, en fait, c'est très sensé d'agir ainsi. Ça marche parfaitement. Pour l'adulte, c'est un fonctionnement dysfonctionnel. Et une fois que l'adulte réalise « cela n'est pas si terrible, je peux en fait commencer à me permettre de ressentir tout ce qui est à sentir et y mettre de la conscience », c'est l'étape qui va au-delà. Oui, très juste. C'est cette compréhension que nous voyons souvent. La souffrance, ou croyons que la souffrance, ou pensons que nous endurons la souffrance de la façon dont nous l'avons endurée en tant qu'enfant, quand nous n'avions pas d'autre choix que le refoulement, que de nous rendre insensibles, de nous fermer, de nous justifier. Et en tant qu'adulte, vous avez le choix. L'une des possibilités, c'est d'être intéressé et curieux concernant ce qui se passe. Parce qu'à la seconde, et tu l'as dit quand nous avons parlé de conscience et de compulsion, la conscience et la compulsion ne peuvent pas exister dans le même espace. Donc, à la seconde même où vous êtes intéressé par ce qui se passe ici, il y a une conscience qui fait qu'il y a en vous, qu'il y a vous, et ce que vous dites être ma douleur. Et vous pouvez voir que la conscience est plus grande que ce que vous qualifiez d'insupportable ou croyez être insupportable. Et à ce point insupportable que vous croyez qu'il faut manger pour vous en libérer. Et la conscience n'est pas seulement plus grande que cela, mais elle est plus grande que tout votre sentiment de soi basé sur le mental, le sentiment de qui vous êtes qui repose sur des idées dans votre tête, des choses que vous vous dites à propos de vous-même, des croyances. Toutes ces choses sont des pensées. Il y a donc une immensité là. On peut dire que c'est en vous ou que c'est aussi transcendant. C'est peut-être expérimenté au début comme une immensité en vous, mais c'est une immensité transcendante qui va bien au-delà de toute chose. Il y a une formule excellente qu'utilisent les théologiens, elle est très profonde. Dieu est immanent et transcendant. Immanent veut dire que Dieu réside en vous en tant que vous, et Dieu est transcendant. Dieu est totalement inconnaissable, totalement au-delà de toute chose dans le monde de la forme. C'est Atman et Brahman, le Dieu intérieur et le transcendant. Et ils sont un en réalité. Et c'est ce qui est. Et c'est pourquoi ça s'appelle les femmes, la nourriture et Dieu, parce qu'ultimement, ce à quoi cela mène, c'est à la réalisation de Dieu, bien que je n'utilise pas souvent cette expression. Moi non plus, bien que le titre de mon livre l'emploie. Et le sous-titre du livre est « Un chemin inattendu qui mène quasiment à tout ». C'est magnifique. Oui, je ne voulais pas mettre « qui mène à tout », mais je crois vraiment que ça mène à tout, parce que vous savez, l'enseignant zen Sherry Hubbard dit « la façon dont nous faisons quoi que ce soit est la façon dont nous faisons chaque chose ». Et donc, si vous considérez la façon dont vous mangez ou examinez la façon dont vous gérez vos relations, vous faites pratiquement tout de façon inhérente à votre façon de manger ou vos croyances à propos de « Oh, je ne peux jamais en avoir assez et je vais donc manger plus que de besoin » ou encore « Ce que je veux vraiment est impossible, je vais donc manger cette purée à la place » « Ce que je veux vraiment ou je suis un raté donc je pourrais aussi bien » Une autre, l'un de mes amis qui a de l'embonpoint me racontait une fois qu'il a souvent, il vit en Angleterre, il dit « J'ai une dure journée, je mérite bien de me faire un petit plaisir ». Oui, c'est ça. Tourner autour et autour. Et alors, tu sais ce que je lui aurais dit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu t'es fait ce plaisir? Tu as donc mangé, cela a-t-il vraiment amélioré les choses? Parce que ce qui arrive souvent avec, disons, avec la nourriture, vous mangez, vous réalisez ensuite, « Oh, je pensais que j'allais me libérer de ma souffrance, mais au lieu de cela, je n'ai rien fait d'autre que la décupler, parce que maintenant, il y a toujours ce qui a fait ma dure journée, parce que ça ne s'en va pas en mangeant une part de gâteau au chocolat. » Et il y a ensuite la façon dont le mental embarque. « Oh non, j'ai encore mangé ce morceau de gâteau au chocolat et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» etc. Je peux tout aussi bien en manger un autre bout. Ça n'a plus d'importance. C'est vrai, c'est juste. Vous savez, je mangeais, je me disais à moi-même, je commence le régime lundi. J'avais l'une de ces montres digitales et il était 11h30, 23h35, 23h56 et je continuais à manger très très vite parce qu'à minuit, j'allais commencer mon régime. Donc, je mange tout maintenant parce que demain, je commence mon régime. Et ça pouvait aussi être une certaine quantité de bonbons. Merveilleux. Et quelque chose qui est lié à cela, mais légèrement différent, c'est ce dont tu parles dans ton dernier livre, « Perdu et trouvé ». C'est un défi très intéressant qui s'est présenté dans ta vie. Il n'y a pas si longtemps, le défi fut miséricordieusement lancé par l'un de tes enseignants spirituels, ou peut-être le plus important d'entre eux, qui s'appelle Bhagavan Bernie Madoff. Miséricordieusement, il t'a retiré 30 années d'économie, les économies de toute ta vie, pour t'aider à faire l'expérience de l'essence de qui tu es. Cependant, tu n'as pas immédiatement fait l'expérience de qui tu es. Je dirais que c'est une affirmation en dessous de la vérité. Et tu décris dans le livre comment ça a commencé. C'est magnifique. Je crois que c'est au premier chapitre, au deuxième. Au début, la somme incroyable de réactions et de peurs quand tu perds les économies de toute ta vie. Et tu décris ce que cela a fait à ton état de conscience. C'est expliqué, illustré de façon magnifique. Je ne sais pas si tu veux en parler brièvement et quelque chose alors s'est produit. Oui, pour ceux d'entre vous, les quelques personnes d'entre vous qui peuvent ne pas savoir qui est Bernie Madoff, il a réalisé une escroquerie, en fait partout dans le monde, et il a fini par voler l'argent des gens pour 65 milliards de dollars. Et comme mon mari aime beaucoup dire quand il raconte l'histoire, et pas tout cet argent n'était le mien. Nous avons donc effectivement perdu toutes nos économies et nous avons eu un coup de téléphone où j'ai reçu un coup de fil un jour. Mon mari n'était pas là. On avait cru que c'était sans danger. L'un de nos amis était un ami de Bernard Madoff. Son père était un ami de Bernard Madoff. Dans notre fonds, tout le monde pouvait placer ce qu'il voulait dans ce fonds, de 600 dollars ou 1000 dollars jusqu'à la somme dont vous disposiez. Et nous avons donc continué à émettre tout notre argent parce que notre ami le faisait lui-même depuis 30 ans. Et également, comme dit mon mari, vous savez, vous commencez à croire à la gravité quand, à chaque fois que vous jetez une balle en l'air, elle retombe, chaque fois depuis 30 ans. Donc, nous avions absolument cru que c'était tout à fait sans danger, et ça ne l'était pas. Et nous avons reçu ce coup de fil disant que tout était parti en fumée. J'ai été choqué, épouvanté, je pense. D'abord, j'ai été choqué, puis complètement hystérique, et ensuite épouvanté. Et j'ai appelé ensuite quelques amis très chers qui sont enseignants, et je leur ai dit, nous avons perdu notre argent. C'était peu après le coup de téléphone, et deux d'entre eux m'ont dit, tu as perdu ton argent, mais rien de valeur n'est perdu. À ce moment-là, j'ai dit à chacun d'entre eux, chacun d'eux, maintenant, ce n'est pas le moment d'être spirituel. J'étais convaincu, vous savez. Ne me dis pas ça. Nous avons perdu notre argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va être SDF, on va se retrouver dans la rue, qu'est-ce qu'on va manger? C'était une panique terrible et... il suffit en fait que j'en parle pour que je retrouve ce moment de choc et de panique. Et il m'a fallu en faire une pratique très vite après. En réalité, j'ai avant appelé mon mari, je me suis débrouillé pour le trouver. Il était en Antarctique, je lui ai téléphoné et cela coûtait très cher, l'appel par téléphonique. Mais néanmoins, je sentais qu'il fallait que je lui dise que nous nous retrouvions sans un sou. J'ai fini par trouver le bon numéro pour l'appeler. Il a pris le téléphone et il a dit « Qui est mort ?» Et j'ai répondu « Personne, mais nous avons perdu tout notre argent. » Il n'a pas dit un mot, je suis aussi restée silencieuse. Il a fini par dire que tout irait bien. Et nous avons ensuite pleuré tous les deux. L'un d'entre eux a eu la présence d'esprit de dire « Il faut que nous raccrochions. Nous ne faisons plus partie des gens qui peuvent se permettre des appels par satellite à 10 dollars la minute. » Nous avons donc raccroché et j'ai commencé très vite à réaliser que cela allait être insupportable de vivre dans mon mental. Je ne pouvais absolument pas vivre dans le mental qui me disait « Qu'est-ce que tu as fait? Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment se fait-il que tu n'aies pas diversifié tes placements? » Mais même un enfant de 4 ans sait diversifier ses activités. Et bien sûr, je me suis mis à rejeter la responsabilité sur tout le monde et sur moi-même ensuite. Les élucubrations, le délire étaient si envahissants que j'ai compris presque immédiatement, en l'espace d'une journée, qu'à moins de me rappeler ce que j'avais, non pas ce que j'avais perdu, mais ce que je pouvais trouver plutôt que l'argent perdu, ce qui était déjà là, qui est cette vie animé qui réside à l'intérieur dont je t'ai entendu parler, à moins de pouvoir me ressaisir d'instant en instant, à chaque fois que mon mental divaguait, j'allais me perdre, j'allais vivre dans une terreur affreuse. Et je me suis donc ressaisi. Ce fut une pratique de la vigilance et à chaque fois que je la perdais, la panique ou l'hystérie me rappelait. Et parfois, avec le mental, c'est difficile de repérer les choses et je ne savais même pas que je me retrouvais à cet endroit jusqu'à ce que je commence à me sentir dans une colère noire. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux aller? Où allons-nous pouvoir vivre? Et je me suis arrangé pour vivre chez des amis. J'avais une autre amie qui m'a dit, vous ferez partie de la famille, vous pouvez vivre chez moi aussi longtemps que vous limitez votre quantité de pulls. Vous savez, il y avait des gens qui m'offraient beaucoup de choses. Mais la chose qui fut la plus grande bénédiction, et je la considère vraiment comme une bénédiction, c'est que cela m'a enseigné à revenir à moi, quoi qu'il se passe, à chaque instant. Et j'ai vraiment vu, bien que ce fût une projection imaginaire, exagérée ou théâtrale, comme je l'appelle, de ce que fait le mental lors d'une catastrophe, que c'est en réalité ce que le mental fait tout le temps. Ce n'était qu'une version plus exacerbée des petites divagations qui se produisent quotidiennement. Et donc, en l'espace d'un ou deux jours, j'étais si heureuse, vraiment très, très heureuse. Ma mère m'a appelé, m'a demandé comment j'allais. J'ai écrit à ce sujet. Je lui ai dit que je me sentais merveilleusement bien. Je me sentais merveilleusement bien. C'était environ 48 heures après avoir découvert que nous avions perdu notre argent. Et elle dit d'une voix tendue et inquiète, « Ma chérie, oui, dis-je, je veux te poser une question. Je ne t'accuserai pas, je ne te jugerai pas, sans dire que je serai d'accord, mais je dois te demander, quoi donc, maman ? Répondis-je, est-ce que tu te drogues ? Je lui ai dit, non, mais je comprenais que cette sorte de joie, une joie sans cause, simplement la joie d'être avec ce qui est quasiment impossible à comprendre d'une perspective conventionnelle où votre vie dépend de ce que vous avez. Et si vous avez perdu la sécurité, si vous avez perdu quelque chose d'important, au fond, c'est alors comme si vous étiez perdu. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu me le disais quand nous nous sommes parlé il y a quelques jours, ton éditeur t'a dit que tu ne pouvais pas mentionner cette joie intense parce que personne n'y croirait. Oui, dites simplement que vous êtes assez heureuse ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Si vous lisez, je dis frôler le fait d'être heureux. Mais elle a eu l'impression que c'était illisible de dire que j'avais été... Ce n'était même pas heureuse, mais remplie de joie, presque dans l'extase, parce que je voyais ce que j'avais manqué. Je voyais les façons très subtiles de me concentrer sur ce qui n'allait pas, les pièges mentaux très subtils dans lesquels je me trouvais après toutes ces années, en revenant à la quiétude, à la pratique, à la méditation. J'étais toujours là. C'était donc la désidentification de la forme et cela ne s'est pas produit complètement jusqu'à ce que l'expérience de la forme soit extraordinairement insatisfaisante. Parce que la forme se dissolvait, les formes auxquelles tu t'étais identifié se dissolvaient, ce qui laisse derrière un espace vide, lequel est très effrayant pour la conscience égoïque. Et donc, si cela n'était pas arrivé, si ce gros événement ne t'était pas arrivé, la désidentification réelle de la forme, aussi longtemps que les formes peuvent vous donner un sentiment de sécurité, dans une certaine mesure, vous ne vous identifiez pas jusqu'à ce que cela devienne radical, jusqu'à ce que l'insatisfaction soit extrême. Vous voyez en fait à quel point les formes sont instables, les formes extérieures. Elles ont l'air si stables. D'autres personnes font cette expérience lorsqu'on leur diagnostique une maladie grave qui peut les confronter à une mort imminente ou qui s'entendent dire qu'elles n'ont plus qu'un certain laps de temps à vivre. Et à nouveau, il y a d'abord parfois une peur terrible, une panique. Et ensuite, pour certaines personnes, cela mène à une désidentification complète de la forme et la conscience sans forme émerge et surpasse quasiment, peut-on dire, l'identité en tant que forme physique et psychologique. J'ai rencontré des gens qui étaient proches de la mort et qui étaient lumineux. On pouvait voir presque physiquement la lumière briller à travers eux. Et cela peut arriver avec n'importe quelle sorte de soi-disant événement désastreux. Caché derrière le désastre, il y a la possibilité de la grâce. Il y a la grâce cachée dans la mort, dans la perte. C'est la bénédiction. Tout être humain n'est pas vraiment capable d'embrasser cela, parce que chez certaines personnes, cela occasionne un endurcissement de l'ego. Cela aurait pu t'arriver, tu aurais pu être une personne amère et furieuse pour le reste de ta vie. La chose aurait été possible, mais bien sûr, tu as également été avantagé par de nombreuses années de travail spirituel. Tu as pratiqué la méditation bouddhiste et autres. Combien d'années de pratique spirituelle ? Plus de 30 ans. 30 ans. Et donc, malgré ça, au tout début, tu as dit, ce n'est pas le moment d'être spirituel. Oui, c'est exact. Et j'ai vu à cet instant que j'avais subtilement séparé les choses. La spiritualité est excellente et il y a aussi l'argent. Et également, cet éveil, pour ainsi dire, devenir complètement vivant à la vie, n'était pas possible pour moi dans cette existence. C'est ce que je croyais. Je croyais pouvoir travailler dur de sorte que je serais toujours une bête de somme. J'y travaillerais dur, je ferais du forcing et je méditerais. Et même si je n'aimais pas vraiment méditer beaucoup, je voulais toujours être une bonne apprentie spirituelle. J'ai vu que je continuais d'essayer encore et encore. Mais cela n'était pas, même si je pouvais entendre intellectuellement que telle était ma véritable nature, je continuais de croire que cela n'était peut-être pas la vérité. Peut-être que ce n'est pas ma vraie nature, peut-être que c'est la vraie nature des autres, mais ce n'est pas, pas véritablement la mienne. Et je pense que j'ai dû en passer par là pour expérimenter et voir que si je ne suis pas consciente de cette vie qui réside à l'intérieur, même pas une feuille de papier à cigarette ne m'en sépare, et c'est possible pour tout être humain. Je ressens toujours que si c'est possible pour moi, c'est possible pour tout le monde. Parce que j'ai l'impression d'avoir été aussi folle que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont participé à mes retraites, mes séminaires pendant 30 ans. Je veux dire que j'ai fait tout cela. Et je me suis dit, bon, c'est OK, tout va bien, alors ce qu'Eckhart a dit est vrai. Ce n'est pas qu'une idée, ce n'est pas juste chouette à entendre, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est ici, en cet instant, sans argent, pas un sou, c'est ici. Oui, j'en ai souvent fait l'expérience sur le banc du parc, le bonheur intense, la joie d'être dans l'instant où le mental pouvait dire, s'il revenait, et ce qu'il faisait parfois brièvement, « Qu'est-ce que tu fais ? Ne devrais-tu pas chercher du travail ou faire quelque chose ?» Mais la pensée n'avait plus de force derrière elle. Et donc, je ne sais pas, j'aurais pu rester ainsi, ce qui aurait été tout à fait dysfonctionnel dans ce cas, et continuer d'être heureux. Mais après un temps, le faire s'est remanifesté. J'étais capable de faire, de mettre en place des choses et de répondre à ce que le moment présent amenait. Et je suis redevenu une personne normale, au moins en surface, extérieurement. Oui, mais tu sais, j'ai envie de te poser une question concernant ce qui est remonté pour moi quand j'ai écrit « Perdu et trouvé », quand j'ai voyagé partout et quand ce que j'ai, et que j'étais en tournée avec ça, j'ai remarqué qu'il était très difficile de parler d'argent. Non pas pour moi à ce stade, parce que je suis devenu si intéressé par l'argent. Après cela, je m'étais dit que j'allais parler aux gens, au supermarché. « Ok, que pensez-vous de l'argent et qu'en est-il de votre relation avec l'argent ? Et combien est-ce que vous gagnez avec votre conjoint ? Est-ce que vous parlez d'argent ?» J'étais devenu fasciné par le sujet, comme je l'avais été par la nourriture, comme point de départ, pour ainsi dire, ou comme point d'accès à nos croyances concernant le manque et la privation et ce que nous nous autorisons à avoir et à être. Quand j'ai commencé à parler de la nourriture, c'était en 1978, les gens ne voulaient pas me parler, sauf ceux qui étaient disposés à le faire, même avec mes bigoudis dans les cheveux. Ceux-là voulaient bien me parler. Mais quand je disais qu'il ne s'agit pas de volonté, de force, ni de privation, mais de l'utiliser comme point d'accès à qui vous êtes véritablement, la plupart des gens répondaient non, il est bien question de volonté et de calories. Et avec l'argent, j'ai eu l'impression d'être revenu 30 ans en arrière. Il y avait une réaction similaire. Non, je ne parle pas d'argent. Un peu comme j'ai réagi moi-même, il y a la spiritualité et il y a l'argent. Donc, je me demande ce que tu penses à ce sujet. Pourquoi l'argent est-il en fait un sujet si difficile à aborder ? Pourquoi les gens sont-ils plus disposés à parler de leur vie sexuelle et dans les moindres détails en plus, et ce qu'ils ont et de ce qu'ils ont mangé ou pas mangé, avec excès ou sans excès, incluant des choses comme je vole de la nourriture et des choses du même genre, plutôt que de parler d'argent. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Eh bien, il est vrai que pour beaucoup de gens, l'évocation de l'argent peut provoquer une perte immédiate de conscience, même pour les gens qui ont par ailleurs déjà amené la conscience dans beaucoup d'aspects de leur vie. Il reste de la peur coagulée autour des idées qui se rapportent à l'argent, et je dirais c'est la peur de la survie. Et il y a également un trait de caractère égoïque, l'un des traits de caractère les plus importants de l'ego qui fait éprouver « ça n'est pas assez ». « Pas assez » est l'un des traits égoïques les plus fermement ancrés. Tout ego a cela. Et pour beaucoup de gens, le « pas assez » se rapporte à l'argent. Il pourrait se rapporter à beaucoup d'autres choses, pas assez de nourriture, pas assez de quoi que ce soit. L'ego ne ressent jamais qu'il en a assez. Et cela se manifeste particulièrement dans le domaine de l'argent, parce que l'argent peut acheter, il est neutre, mais il peut devenir presque toute chose dans le monde de la forme. Et il provoque l'insuffisance, le sentiment de pas assez de l'ego. Cela pourrait aussi être n'importe quoi rattaché à l'argent. Ça pourrait être le fait de parler d'acheter une maison ou quelque chose comme ça. Et il y a des problèmes à ce sujet. Vous parlez à votre agent immobilier et vous êtes contrarié. Je vois souvent la façon dont les gens perdent la conscience. Dès que quelque chose de ce genre se produit, tout ce qui est relié à l'argent d'une manière ou d'une autre, une possession ou n'importe quoi d'autre, il y a une perte immédiate de la conscience. Mais une fois que vous le savez, cela peut être très utile parce que la fois suivante, avant de prendre le téléphone pour appeler votre banque, votre fonds de placement, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui place son argent, voyez si vous pouvez rester conscient plutôt que de perdre la conscience. Il peut y avoir d'autres domaines de votre vie qui vous entraînent dans l'inconscience. Et une fois que vous le savez, ça peut être une personne, l'évocation d'une personne, quelqu'un du passé, votre père qui a fait quelque chose, votre ex-femme ou qui que ce soit, et penser à cette personne peut vous plonger dans une inconscience profonde, dans l'angoisse, la colère, etc. Une fois que vous savez ce qui, dans votre vie, a toujours ce pouvoir de vous provoquer, vous pouvez quasiment en jouer. Vous pouvez commencer à y penser et voir si vous pouvez rester conscient. Vous pouvez en parler à un ami et voir si vous pouvez rester encore présent en parlant. Ce qui veut souvent dire sentir le corps subtil pendant que vous en parlez. Pendant que vous parlez de quoi que ce soit, de l'argent, ressentez la vie dans le champ d'énergie intérieure. Parce que finalement, quand on dit que cela vous rend inconscient, cela veut dire que cela vous ramène complètement dans le mental réactif. Cela vous ramène complètement dans la pensée. L'argent est une chose très abstraite. C'est en fait une forme pensée à laquelle tout le monde souscrit de la même façon que pour une possession. Par exemple, je possède cette maison. La possession d'une chose est une forme pensée. Cela n'a pas de signification réelle dans la réalité extérieure. C'est tout à fait dénué de sens. Vous ne pouvez rien posséder. C'est tout à fait absurde. Mais je ne parle pas d'une possession spéculative. Je parle de reconnaître qu'au bout du compte, et c'est tout à fait dénué de sens. C'est pourquoi je l'ai mentionné, je crois, dans Nouvelle Terre. Dans Nouvelle Terre, je dis, si vous vous promenez dans Manhattan et que vous regardez un gratte-ciel immense en disant « c'est à moi, je possède ce gratte-ciel », vous êtes soit un fou, soit très riche, et vous le possédez effectivement, mais dans les deux cas, il n'y a qu'une petite différence. La seule différence, c'est que si vous êtes fou, personne d'autre ne le croit. Si vous êtes riche et le possédez effectivement, tout le monde le croit également. On vous délivre même des papiers pour certifier qu'on le croit. Il n'y a rien d'autre. C'est la seule différence. Si vous ne faites qu'y croire, vous êtes fou, mais si les autres y croient également, vous le possédez. Et cela vous montre l'irréalité, au bout du compte, de tout le concept de la propriété. Et en particulier, je veux dire, quand il s'agit de terre, que c'est encore plus absurde. Comment pouvez-vous posséder une partie de la planète et dire « c'est à moi » ? C'est pourquoi pareille chose était incompréhensible pour les habitants de l'Amérique du Nord, qu'on appelait les Indiens à l'époque. Les Occidentaux sont venus, les Européens sont venus et ils leur ont dit « vous pouvez en fait posséder des terres ». Et ils ne pouvaient pas comprendre ce que cela signifiait. Vous pouvez sentir que vous faites un avec ou que vous appartenez à la terre. Ils pouvaient comprendre ça, mais qu'on la possède, ils ne pouvaient pas le comprendre parce que c'est un mythe. Mais actuellement, c'est ainsi que la société fonctionne. Cela peut arriver à un certain stade, une fois que les humains se développent et que davantage d'humains s'éveillent de l'identification à la forme, qu'à un certain stade, peut-être ce que le communisme voulait amener sans changement de conscience, et c'est ainsi qu'ils ont créé l'enfer, ce qu'ils voulaient amener peut vraiment arriver et arrivera probablement dès qu'il y aura un changement de conscience. Oui, parce qu'il semble qu'aussi longtemps que nous nous identifions à la forme, nous nous identifions à la possession d'une forme. Oui. Et tu disais qu'avec l'argent, ça vient de ce ressenti de pas assez, de la position égoïque du pas assez, ce qui est très parlant. Dans les quelques jours après que nous ayons perdu notre argent, j'aurais pris un verre d'eau ou une tasse de thé et j'aurais simplement dit « Oh, une tasse de thé, la voici, de l'eau, c'est là ». Il y avait ce sentiment d'abondance, le fait d'en avoir tant, juste par le fait de pouvoir boire de l'eau. Donc au début, je me suis mis effectivement à me concentrer sur les formes comme les arbres, les oiseaux que je pouvais entendre. Et il y a eu ensuite le sentiment de la vie intérieure pour la sentir enfin partout. Oui, l'appréciation des petites choses vient avec cela. Cela m'est arrivé quand je me suis éveillé la première fois après ce changement survenu la nuit. Tout ce que je regardais était si précieux, les petits objets apparemment sans importance qui traînaient dans la pièce. Il dégageait quelque chose de précieux et un état d'être. Et il y avait donc simplement un honneur rendu à tout cela dont je faisais l'expérience pour la première fois. Ça m'arrive toujours, même souvent, parce qu'on est bien sûr continuellement entouré dans sa vie quotidienne par toutes ces choses apparemment insignifiantes. Mais une fois qu'on y prête attention, c'est en réalité magnifique et profond. Et même la gratitude peut émerger pour la chose la plus insignifiante en apparence. Oui, je me rendais à mon studio les premiers jours et j'ai réalisé « Waouh ! Je n'ai pas arrêté de faire des allées et venues ici et je n'avais pas entendu les oiseaux chanter. Je ne peux même pas dire depuis quand et tout d'un coup, le seul fait qu'il y ait des oiseaux était une chose incroyable. » Et je me suis dit que j'avais marché jusque-là comme un fantôme, dans un monde de fantômes en quelque sorte, et simplement slalomé entre les objets, les choses à franchir et à dépasser pour arriver à l'endroit suivant. Oui, c'est la conscience normale. Oui, la conscience normale dit au moment présent, enlève-toi de mon chemin. Oui. Enlève-toi de mon chemin. Ce qui revient pour vous à dire à la vie qui est toujours maintenant, enlève-toi de mon chemin, j'ai quelque chose de mieux en tête. Et bien sûr, cette chose qui est mieux n'arrive jamais, parce que c'est dans la tête. Oui, c'est exact. Et de bien des façons, pour en revenir à la nourriture, c'est la même chose que nous expérimentons ou que j'expérimente quand j'ai envie de manger alors que je n'ai pas faim. J'ai quelque chose de mieux en tête que ce qui est ici. Ah, également, oui. Excellent. Oui, il y a donc également ce lien. C'est étonnant. Oui, je sais, c'est vraiment étonnant. Quand je pense à la façon dont le manger compulsionnel ou les obsessions sont gérées, traitées comme quelque chose à écarter du chemin. Je dois juste régler ça et m'en débarrasser pour pouvoir continuer d'avancer. Au lieu d'être avec « Oh, il y a ceci ». Oui, une dernière chose, peut-être. Il y a ici une citation qui débute l'un des chapitres, juste une citation d'une ligne de James Joyce, je ne sais pas d'où elle vient, du livre Jean de Dublin. Jean de Dublin. James Joyce a écrit cette chose. Mr. Duffy vivait à une courte distance de son corps. Et tu dis, j'aurais aimé penser à cette formule. Il y a bien sûr tellement de gens qui vivent à une courte distance de leur corps, partis dans leur tête. Et tu parles de l'importance, et tu le fais dans tes ateliers et tes retraites, d'amener ton attention non seulement dans le corps, mais plus particulièrement dans la région du ventre, ce que les Japonais appellent le hara, parce que c'est en quelque sorte le point central de tout le corps. Je vous ai déjà mentionné un dicton zen qui dit l'attention là-dessus, qui dirige l'attention là-dessus et qui dit il y a un Bouddha aveugle dans votre ventre. Permettez-lui de voir. Pas plus d'explications, c'est l'instruction pour la méditation. Il y a un Bouddha aveugle. Comment puis-je permettre de voir un Bouddha aveugle dans mon ventre? Vous ne pouvez pas y penser, mais ce qui se passe, c'est que votre attention se dirige sur « Oh !» Vous commencez à sentir cette partie dans votre ventre, et ainsi le Bouddha aveugle, la conscience, commence à pénétrer tout le corps et le Bouddha aveugle commence à voir. Tout le corps devient conscient. Je me demande si tu peux faire avec nous une petite méditation sur le ventre, comme tu fais souvent dans tes retraites et dont tu parles dans ton livre, de sorte que nous mettions notre attention dans le ventre. Serais-tu d'accord? Oui. J'ai lu dans l'un de tes livres cette phrase « La transformation arrive par le corps ». Et cela m'a touché très très profondément parce que le corps est la partie de l'univers qui vous a été donnée. Et si la transformation doit se produire, cela ne peut pas arriver là-bas. C'est ici, dans cette forme. Donc, ressentez vos deux pieds sur le sol. Permettez-vous d'être conscient que vous avez effectivement un corps en ce moment même, que la conscience qui émerge, émerge aussi dans et à travers ce corps. Soyez conscient de vos pieds et de leur point de contact avec le sol. Soyez conscient de vos fesses sur la chaise et leur point de contact. Revenez ainsi dans votre corps. Et dans vos mains, ce qu'elles touchent et la façon dont elles touchent. C'est un vrai miracle que d'avoir des mains et d'avoir ce corps. Soyez conscient des sensations dans votre corps. Et s'il y a des endroits particuliers qui palpitent, qui bougent ou qui vibrent, s'il y a de la chaleur ou de la fraîcheur, une contraction, un resserrement, doucement permettez à ce qui est là d'être là. Accueillez-le. Ressentez ce corps, ce que vous appelez vous. Vivant dedans et à travers. Ensuite, avec douceur, dirigez votre attention sur votre ventre. Le ventre est un endroit auquel beaucoup d'entre nous n'aiment pas accorder d'attention. Nous avons des jugements à son sujet. On nous a dit de rentrer le ventre, la valeur d'avoir un ventre plat. Mais permettez-vous simplement de respirer. Permettez à votre ventre d'être tel qu'il est maintenant. Et si vous le voulez, juste pour sentir le mouvement de votre ventre, placez la paume de l'une de vos mains sur le nombril et la paume de l'autre main sur la première. Et le ventre est la partie au-dessus du pubis. Avec votre nombril. Juste là, avec votre nombril. Soyez conscient simplement du mouvement de cette respiration, de cette inspiration. Et si cela vous est difficile de vous concentrer sur le ventre, si votre mental vagabonde, ramenez-le à l'inspiration et à l'expiration. Inspiration, expiration, sentez le mouvement. Souvent, quand les gens commencent à ressentir leur ventre, ils ne sentent rien. Ou ils sentent de l'engourdissement. L'engourdissement est une sensation. Ce qui est là, quoi que ce soit, accueillez-le, permettez-le, remarquez-le. Et tandis que vous respirez, suivez la respiration jusque dans vos mains, de sorte que vous ayez une pleine respiration. Nous retenons souvent notre respiration sans même le remarquer. Suivez tout le cheminement de l'expiration. Simplement abandonnez-la et relâchez toute tension que vous ressentez là, toute retenue. Les bouddhistes parlent du ventre mou, simplement du ventre mou. Restez tranquille un moment pour être conscient du changement des sensations dans votre ventre. Si vous remarquez le vagabondage de votre mental, ramenez-le simplement.